place. Yofi. Erev Tov, donc, les Koulam. Erev Tov, on revient dans notre série d'études sur les grands personnages, le Rav Shlomo Goren. Ensuite, nous avons évoqué le Rav, si je ne me trompe pas, en troisième position, nous avons eu le Rav Anazir, le Rav David HaKohen. Ensuite, nous avons eu le Rav Meir Yehuda Getz, évidemment. Et le Rav Yitzhak Meir. Yitzhak Nissim. Je dis n'importe quoi, moi. J'étais perturbé de penser. Donc, on avait 5 rabbanim, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais nous avons essayé, pour le moment, à chaque fois, de nous intéresser à une autre Edda. Si le Rav Shlomo Karlebar vient d'Allemagne, si le Rav Goren, sa famille vient de Pologne, si le Rav Anazir vient plutôt d'Europe centrale, si le Rav Getz vient de Tunisie, et le Rav Yitzhak Nissim vient de Bagdad, eh bien, aujourd'hui, les amis, nous allons nous intéresser à un personnage extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors, pour le coup, qui va pas avoir une interaction incroyable avec les goïms, comme on a pu voir avec le Rav Yitzhak Nissim et l'histoire du pape et tout ça, machin, mais il va avoir une influence absolument phénoménale à l'intérieur du peuple juif. Et le problème, c'est que personne ne le sait. C'est-à-dire que il va participer à tout simplement le fait que Am Israël puisse étudier vraiment la Torah. On doit une grande partie de notre capacité aujourd'hui à étudier bien la Torah à lui, et les gens ne le connaissent pas. Je parle aujourd'hui du Rav Yosef Kapar. Alors, je le dis très mal, évidemment, parce que je le dis en accent français. Un bon yéménite me dirait, on dit pas du tout comme ça, on dit Rav Yosef Kapar. Ah oui, il faut dire les choses comme ils sont. Et effectivement, nous allons parler aujourd'hui de ce Rav Temani par excellence. J'ai appelé le cours « Le vrai juif ». Le juif vrai, le juif authentique. Et la vérité, c'est que quand tu regardes le Rav Kapar, quand tu apprends un petit peu qui il était et tu vois comment il s'est comporté dans sa vie, la vérité, Bémet, c'est ça que ça doit être un juif. Nekouda. Nekouda, alors on va essayer justement de développer cette Nekouda. Qui c'est le Rav Yosef Kapar? Alors, je terminerai simplement, je commencerai parce que j'aurais terminé. Qu'est-ce qu'on a dit de lui à son enterrement? Quand je dis qu'est-ce qu'on a dit de lui à son enterrement, qui parle? Qui parle à son enterrement? Ah ben, c'est pas compliqué. Qui parle à son enterrement? C'est le Rav Mordechai Eliyahu. C'est le Rav Odia Yosef. Donc, autant te dire qu'on parle de grand bonhomme. Et ils vont dire de lui que si tu voulais savoir au XXe siècle comment le Rambam vivait au quotidien, tu n'avais pas besoin d'une machine à remonter le temps, tu avais le Rav Kapar. Regarde le Rav Kapar, c'est le Rambam. C'est tout. Voilà ce qu'on est capable de dire sur un tel personnage. Alors, avant de rentrer dans sa vie, son œuvre, ce qu'il a fait, eh bien, je vais répondre tout de suite à une question. Pourquoi personne ne connaît le Rav Kapar? Pourquoi personne ne connaît sa grandeur? Je vais simplement vous dire un truc, une toute petite anecdote, histoire que vous compreniez à quel point on connaît pas. Le Rav Kapar, pendant 20 ans, il est chaver Beddin Agadol Leirurim Birushalayim. Chaver Beddin Agadol. Il n'y a pas plus haute fonction dans la fonction rabbinique, si tu veux, au niveau de la psikata halakha. Pendant 20 ans, il est donc chaver au Beddin Agadol, mais il est le co-patron au Beddin Agadol d'un autre rabbin que tout le monde connaît. Son chaver au Beddin Agadol n'est autre que Reb Shalom Yosef Eliashiv. Le Rav Eliashiv. C'est-à-dire que tu mets d'un côté Rav Eliashiv et le co-rabbin, c'est le Rav Yosef Kapar. Juste que vous compreniez un petit peu la dimension du personnage. Alors comment ça se fait qu'on ne connaît pas? Eh bien, les amis, sans vouloir être trop accusateurs sur nous-mêmes, mais c'est parce qu'on est raciste. C'est tout. C'est parce qu'on ne connaît rien au judaïsme yéménite, parce qu'on n'y connaît rien à Yahadut Théman. Et c'est ça le vrai problème, le premier coup de gueule de la soirée. Quand on parle de Yahadut, on parle d'Ashkenazim, Sfaradim. Yahadut Théman, c'est une richesse absolument incroyable, une Torah absolument incroyable et une histoire absolument incroyable. Mais on la connaît pas. On la connaît pas parce que pour nous, ils étaient loin. Parce que pour nous, ils étaient loin et ils nous rappelaient peut-être un passé glorieux, mais certainement pas un présent. Et c'est peut-être cela qu'il va falloir remédier ce soir. D'abord, nous rappeler que Yahadut Théman est beaucoup plus vieille que Yahadut Ashkenaz et que Yahadut Sfarad. Yahadut Théman, il y a plusieurs massorot chez les Thémanim de savoir d'où ils viennent. D'où vient la Yahadut Théman? Quelle est l'origine des Thémanim? De l'Opachut. D'où ils viennent? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a une marloquette chez les Thémanim eux-mêmes. Certains pensent que Yahadut Théman a commencé avec Galut Aseret HaShvatim. C'est-à-dire la Galut des 10 tribus du Nord, lorsque Sanhérib est venu et a détruit le royaume d'Israël en moins 721, eh bien, une partie des Juifs est arrivée sur les bords des frontières de ce qui est aujourd'hui le Yémen. Mais d'autres Massorot Thémaniot voient les Juifs du Yémen comme étant encore plus anciens. Encore plus anciens, puisque certaines Massorot Baladiot chez les Thémanim nous disent que tout simplement ce sont les Juifs du Yémen qui étaient déjà en place à l'époque de Shlomo HaMelech, et c'est eux, les Juifs du Yémen, qui étaient des commerçants, qui ont prévenu la reine de Saba, Malkat Shva, de la grandeur de la sagesse de Shlomo HaMelech. Ce seraient les Juifs Thémanim d'origine qui auraient prévenu la reine de Saba pour qu'elle vienne à Jérusalem et rencontrer Shlomo HaMelech. Donc, c'est-à-dire que soit on place Yahadut Théman, eh bien, il y a de cela 2700 ans, soit déjà de, il y a 3000 ans. Donc, on parle vraiment de quelque chose de très, très, très premier. Dans tous les cas, Zé Yahadut, qui n'est pas revenu en Israël, bimé Baït Sheni. C'est-à-dire que les Thémanim sont déjà en place depuis Sof Yemé Baït Rishon, et donc c'est une histoire énorme, et c'est une histoire qui, à la différence des Éthiopiens, qui ont été coupés du reste du monde juif, le monde Thémani n'a jamais été coupé du reste du monde juif. Il y a toujours eu des contacts, des écrits, des lettres, des échanges entre Rabbanet Théman et le reste des Rabbanim d'Eretz Israël, que ce soit en Eretz Israël ou alors Rabbanet Bavel. Il y a énormément de Mirtav, de Itkatvouyot entre les Rashi Yeshivot des Géonim à Babylone et Rabbanet Théman. C'est-à-dire donc, on a ici une richesse culturelle absolument incroyable et une richesse toranique tout aussi incroyable, à tel point qu'on va parler d'eux avec kavod énorme dans tous les milieux juifs. Que ce soit les milieux ashkenazim, que ce soit les milieux sfaradim, quand on parle de Rabbané Théman, je parle à l'époque Shonim, quand on parle de Rabbané Théman, c'est kavod gadol. C'est vrai ? Alors comment ça se fait qu'entre les Rishonim et aujourd'hui, eh ben, tout a changé et tu demandes aujourd'hui à je suis désolé d'être violent, mais tu demandes aujourd'hui à un Bahou Yeshiva bien habillé comme il faut avec un chapeau et tu lui parles de Yahadut Théman, il va te dire ouais, c'est des mecs qui grimpent aux arbres. Alors qu'en vérité, on est face à peut-être l'un des judaïsmes les plus authentiques. Alors, le curieuse, la rigolade, c'est tout simplement de dire que d'où on sait qu'ils sont véritablement authentiques, eh bien, c'est parce que ils prononcent toutes les lettres. Nous, on se dispute entre les Ashkenazim et les Sfaradim de savoir qui ont raison de dire le Kamatz O ou de dire le Chaf et Chet différemment. Les Ashkenazim, ils ne savent pas dire la différence entre Aleph, Ain et tout ça. Les Thémanim, ils nous regardent et ils se marrent. Parce que chez les Thémanim, toutes les lettres ont une prononciation différente, toutes les voyelles ont une prononciation différente. Ça n'existe pas que Tseré et Ségol se prononcent de la même façon. Ça n'existe pas que Patach et Kamas se prononcent de la même façon. Ça n'existe pas que le Tet et le Tav se prononcent de la même façon.
Arabe.
Oui.
Où sont les Juifs de Théman dans le Talmud?
Ah, où est-ce qu'ils sont dans le Talmud? Ben, ils n'y sont pas. Ben, pourquoi tu veux qu'ils y soient? Yehudé Théman, ils sont Théman. À Talmud, Zébabiline, Zébabilone.
Ah, mais c'est des sites florissants. Il y a plein d'échanges entre le Talmud et Yerushalmi, enfin, entre les Chachamim de Israël et les Chachamim de Babel.
Entre les Chachamim de Nahon. Nahon.
C'est si vieux et si important.
Alors, déjà, je t'ai dit, déjà, juste après le Talmud, tu vois qu'il y a des échanges constants chez les Géonim, entre les Géonim et les Thémanim, il y en a plein. Dans le Talmud, ils ne sont pas rapportés, mais dans le Talmud, tu remarqueras que les Chachamim qui peuvent être ailleurs que à Babylone ou en Israël, ils ne sont pas mentionnés non plus. On sait très bien que déjà à l'époque du Talmud, il y a Kehilat Bene Roma qui est très puissante et on ne parle jamais de Kehilat Bene Roma dans le Talmud. C'est-à-dire qu'il y a une volonté dans le Talmud de dire qu'il y a Babylone et il y a, à la limite, on est obligé d'accepter Eretz Israël aussi. Mais on ne parle pas des autres. Pas qu'on n'existe pas, mais il n'y a pas d'échange avec eux. C'est pour ça qu'on ne va pas retrouver non plus les Chachmé Théman dans le Talmud. Maintenant qu'on a dit cela, eh bien, je terminerai comme preuve de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là. Nounou. Je ne sais pas pourquoi. Cela. Nounou. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. L'homme chané, l'homme noir. En tout cas, comment ça se fait donc que je pense que c'est vraiment quelque chose d'authentique? Eh bien, vous savez, par exemple, il y a un film qui est en 4 épisodes. Si vous n'avez rien à faire pendant le prochain Seger, eh bien, vous pourrez voir ce film en 4 épisodes d'1h30 chacun. Donc, il faut avoir le temps. C'est un film sur l'histoire de Masada. Rien à voir avec les Thémanim. C'est un vieux film, enfin vieux film, hein, un film des années 70, je crois, un truc comme ça. Et donc, ça veut dire aussi que, un, il est tsanoua, années 70, et deux, le sang, c'est du ketchup. C'est-à-dire, donc ça veut dire que c'est regardable par tout le monde. Mais qui ça raconte l'histoire de Masada, tout ça, nanana. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'à un moment donné dans le film, il montre les religieux de Masada qui étudient la Torah. Et pour montrer que genre ça parle d'une époque ancienne, qu'est-ce que tu entends comme mifta et comme liturgie? Eh ben tu entends les Thémanim. C'est-à-dire, t'aurais pu penser que comme c'était un film hollywoodien, ils allaient te mettre un bon américain qui parle avec l'accent anglais et, en mode Ashkenaz du XXe siècle. Non, ils ont voulu la jouer genre c'était il y a longtemps. Donc, eh bien, on a mis en place une sonorité Thémani. Maintenant, il y a une raison aussi à cela. Comment ça se fait que je parle d'authenticité dans le judaïsme du Yémen? C'est parce qu'ils nous ont été épargnés de l'influence extérieure. C'est-à-dire que l'influence chrétienne, évidemment, elle n'est pas arrivée là-bas. Et même l'influence musulmane, elle n'a pas été tellement ancrée à l'intérieur de la communauté juive parce que les musulmans là-bas au Yémen mettaient une vraie différence entre juifs et musulmans. Ce qui fait que, eh bien, ils n'ont pas vraiment eu d'influence extérieure qui fait que leur judaïsme est resté extrêmement authentique. C'est-à-dire, pour vous donner un seul exemple, il y en aurait des dizaines, mais un seul exemple du judaïsme yéménite, il faut savoir que les Thémanim se sont arrêtés au Talmud. C'est-à-dire que pour eux, la seule véritable autorité, c'est le Talmud. Tout ce qui n'est pas Talmud, c'est-à-dire que pour eux, la seule véritable autorité, c'est le Talmud. Tout ce qui n'est pas Talmud, au choix, ou on accepte ou on n'accepte pas. Résultat des courses, toutes les xérotes, les minagim de Achmarot, de en plus que les Ashkenazim et les Sfaradim, ils se sont imposés, les manim, ils ne connaissent pas. Hein. Donc, par exemple, alors que le Ham Israël, il a pris sur lui de ne pas manger de la viande grillée le soir du Seder, que les Ashkenazim, ils ont pris sur eux en plus, non seulement de ne pas manger de la viande grillée, mais de ne pas manger d'agneau, que les Ashkenazim, ils ont pris sur eux en plus, non seulement de ne pas manger de la viande grillée, mais de ne pas manger d'agneau, Bichlal, les Témanim, ils se font un agneau grillé le soir du Seder, la Méhadrine. Parce que pourquoi souffrir quand on peut kiffer? C'est-à-dire? Alors maintenant qu'on a essayé de remettre un petit peu les choses en place, hein, Elie, tu veux dire un truc?
Ils ont une soupe le vendredi soir.
Oui, ils ont... exactement. Ils ont une soupe et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire que d'avoir l'ach, yesh bichoul, achar bichoul, belach. Eux, y compris, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ça. Le Rambam, il n'a pas dit, il doit terminer. Bekitsour. Donc, hein? Qu'est-ce que tu dis?
Ils ont bien dû avoir leur achmarot à eux, quand même. Mais c'est des... S'il y a eu des chachamim, forcément, il y a eu des achmarot.
Ah, il a fait. Ben non, comme c'est des juifs authentiques, eh bien, leurs chachamim, ils n'étaient pas en mode achmarot. Ça va?
Et attends, comment ils ont fait la halakha?
Ah, ben ils ont fait la halakha. Il y a une différence entre la halakha et les chumrot de la halakha. C'est pas pareil. La halakha, elle n'est pas obligée d'être mahmira toutes les 5 minutes. D'accord? Mais Kitsour, maintenant qu'on a parlé un petit peu du réka des Témanim, eh bien, on va se concentrer sur ce personnage de notre génération incroyable, Arav Yosef Kapar. Alors, Arav Kapar, donc on a dit Kapar en bonne prononciation, même si je suis sûr que je l'ai mal dit quand même, né en 1917. Donc, autant dire que le Rav Kapar accompagne de sa vie la résurrection nationale d'Israël. Il naît avec la déclaration Balfour. Il naît donc au Yémen, à Tsina, la capitale du Yémen, et il est le descendant direct d'un des plus grands décisionnaires du Yémen, de Yehoudé Théman, qui s'appelle... alors, chez eux, on ne dit pas Arav. On ne dit pas Arav X. On dit Mori. Mori, c'est Moreno Verabenu. Non, ça, c'est chez nous. Ça, c'est Jeskenadim. On dit Mor, Moreno Arav. Mari, c'est-à-dire un des plus grands décisionnaires du Yémen. Je te parle de ça au XVIIe siècle. Il est le petit-fils de celui qui va être le chef de tout le judaïsme du Yémen. Donc, je te parle de ça au XIXe siècle. Il s'appelle Mori Ayoshish Arav Yahya Kapar. C'est dans cette ambiance-là de Torah et de Tzidkout qu'il va grandir. Sauf que la vie est assez compliquée. Lorsqu'il naît, un an plus tard, son père meurt. 5 ans après sa naissance, sa mère meurt. Donc, dès l'âge de 5 ans, il est recueilli par son grand-père, Mori Arav Yahya Kapar, Mori Ayashish. Il est donc accueilli par son grand-père, il va grandir chez son grand-père. Il a à ce moment-là 6 ans quand son grand-père commence à véritablement le rentrer dans Inyan HaTorah. Mais quelle est la chita de Yehoudé Théman? Et c'est une chita qu'il va prendre sur lui et qu'il va insuffler à tous ses élèves. Et ça va être la chita non seulement de Yehoudé Théman, mais d'un véritable judaïsme authentique, agar entre parenthèses. C'est une chita que nous on accepte également. On ne sait pas que ça vient du Rav Kapar, que c'est lui qui l'a démocratisé. C'est quoi cette chita? Eh bien, c'est de dire que, les amis, quand on dit qu'il faut étudier la Torah, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Est-ce que ça veut dire étudier le Talmud? Oui. Est-ce que ça veut dire étudier le Tanakh? Oui. Est-ce que ça veut dire étudier comment un œuf, il est clos? Oui. C'est Torah. Est-ce que ça veut dire qu'on va étudier comment les saisons influent sur la récolte? Oui, c'est Torah. En d'autres termes, Rabbi Moré Ayashish, il va insuffler dans le petit jeune Yosef Kapar cette volonté de sacranout. Tout doit être intéressant. Tout doit être une recherche de Torah. Tous les sujets de la planète sont des sujets à étudier. Il n'existe pas dans l'enseignement Thémani de sujet Chol et sujet Kodesh. Ça n'existe pas. Tout est Kodesh. Et pour comprendre d'où ça vient, d'où ça leur vient au Thémanim, eh bien ça leur vient évidemment de celui qui a été le maître du judaïsme yéménite entre le XIIe siècle et le XVIe siècle, le maître incontesté du judaïsme yéménite, c'était Rabbi Moshe Ben Maimon, le Rambam. Le Rambam, depuis la Igeret Théman, la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, qu'il envoie en 1172, il devient le possek officiel unique des Yehudé Théman. Et donc, pour le Rambam, c'est ce que le Rambam va nous écrire, par exemple, dans Shmoneh Prakim, Shmoneh Prakim Perek Hamishi, qu'il faut étudier Akol. Akol. Que l'Imud HaChochmot, ça fait partie de Da'at Hashem. Et donc, c'est quelque chose qui va évidemment les accompagner. Dès qu'il a 6 ans, eh bien, le jeune Yosef Kapar est instruit par son grand-père à s'intéresser à tout. Que tout doit être en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Certains raconteront même que lorsque les élèves un petit peu âgés de Rabbi Yechia Kapar ont demandé au maître, dis-moi, quand tu vas partir, qui va te remplacer? Il a dit sans hésiter, c'est Yosef. Alors que Yosef Kapar avait à ce moment-là 6 ans. Comment le Rav Kapar en devenir va trouver sa voie, trouver sa vocation? Parce que oui, ça va être un grand Talmid Chacham, bien sûr. Ça va être un Posek Halacha incroyable. On a dit 20 ans au Beit Din Arabani, à Gadol, Seder. Mais quelle est sa voie? Quel est son truc? Quel est le truc qu'il va donner au monde? Eh bien, il va le découvrir quand il a 11 ans. Son grand-père est donc le responsable de toute la communauté. Et parmi les choses que le responsable communautaire a à faire, c'est de s'occuper de l'enterrement, pas seulement des gens de la communauté, mais des Sfarim. À l'époque, lorsqu'un Sefer n'est plus utilisable, eh bien, un Sefer, j'entends un Sefer Torah, un Sefer de Kodesh, un Sefer, un Pérouge de la Torah, ou ce que vous voulez, eh bien, il est enterré dans le cimetière. Seulement, le problème, c'est que là-bas, il y a très souvent des chitfonotes, comme il y a en Israël. Et donc, comment, à l'époque, pour enterrer les livres, on les mettait dans des pots en argile qu'on enterrait. Seulement, le problème, c'est que dès qu'il y avait des chitfonotes, des crues comme ça, des coulées d'eau, eh bien, des fois, ça emmenait une partie du cimetière et ça emmenait également une partie, eh bien, de ces différentes bocaux en argile. Et donc, le Rav Yechia Kapar demandait toujours au responsable du cimetière que si jamais ça devait arriver, qu'il le prévienne. Et on est un matin de Cheshvan, enfin pas un matin, c'est un soir de Cheshvan, un jeudi soir de Cheshvan, on n'a pas la date exacte, ça arrive. Il y a un grand chitaphone, machin, et le responsable du cimetière, il dit, il s'est passé le chitaphone, venez. À ce moment-là, le Rav Yechia Kapar vient avec son fils, son petit-fils, l'un a 80 ans, l'autre en a 11, et ils viennent et ils cherchent s'ils ne peuvent pas trouver ce cadre. Et ils vont la trouver. Ils vont la trouver, elle est enfoncée dans la boue, et à ce moment-là, le rabbin qui a 80 ans, c'est pas lui qui va se baisser et creuser et tout ça. Donc c'est le jeune Yosef qui va creuser, qui va réussir à sortir la cadre, qui va l'ouvrir et qui va trouver dedans un livre, un parchemin en fait. Et quand on va le ramener à la maison, on le faire sécher, pendant tout le Shabbat, le livre va sécher. Et Motzei Shabbat, le jeune Yosef Kapar avec son grand-père vont essayer de découvrir de quoi il s'agit. C'est un travail extrêmement minutieux parce qu'il faut nettoyer le livre et le déchiffrer. Et on va retrouver tout simplement un des plus vieux commentaires de la Mishnah jamais retrouvé. Il s'agit du commentaire de Rabbi Nathan HaIsraeli. C'est un commentaire de la Mishnah qui est pré-Géonim. C'est-à-dire qu'on est On est juste au moment de la fin du Talmud. Et il semblerait qu'à ce moment-là, sauver des livres anciens et les rendre accessibles, eh bien, le Rav Kapar vient de trouver sa vocation. Bon, le problème, c'est qu'il ne va pas tout de suite la mettre en place, parce que lorsqu'il a 14 ans, son grand-père meurt. Il est seul au monde. Il n'a pas de parents. Son grand-père, qui était son parent, n'est plus là. Et pour ajouter le problème, il habite au Yémen. Et quel est le problème? Eh bien, le problème est très simple. Il est qu'à cette époque-là, au Yémen, il y a ce qu'on appelle Gzerat Hayetomim, le décret d'orphelin, qui dit que lorsqu'un homme est orphelin, un homme ou une femme juive est orpheline ou orphelin, ils sont obligés de se convertir à l'islam. Boum! Tac! Et donc, il y a des gens qui vont balancer que le Rav Kapar, le jeune... Oui.
C'est un décret de l'autorité yéménite ou ça?
C'est un décret de l'autorité musulmane de l'époque.
Ah, je sais pas,
okay. Enfin, mais c'est les musulmans qui sont les patrons au Yémen. C'est officiel. Et il y a des gens qui vont balancer que le jeune Youssef Kapar est un orphelin. Il doit se convertir à l'islam. À ce moment-là, il y a un des autres rabbins de Tsana qui va venir auprès du roi du Yémen. Comme il est connu et qu'il a un petit peu de kavod pour lui, le roi du Yémen le reçoit et il dit, il faut qu'on trouve une solution. Il ne faut pas que Youssef Kapar devienne musulman, ce n'est pas possible. Et le roi du Yémen, qui a un kavod pour la famille Kapar, il va dire un mot. Alors, je ne vais pas te le dire en arabe parce que je ne vais pas réussir à bien le dire, mais je vais le dire en hébreu. Il dit « Techatnu oto »« Mariez-le » Mariez-le, il ne sera plus orphelin. Et donc, dans l'urgence, on est obligé de marier Yosef. Il a 14 ans. Il va sur ses 15 ans, t'inquiète pas. Il va sur ses 15 ans. Il faut le marier. Mais à qui? Ben, à sa cousine. À sa cousine, Bracha, qui deviendra la rabbanite Kapar. Elle a 11 ans. Alors, tu me diras, c'est un peu jeune. C'est vrai, normalement, on l'aurait marié à 12. Mais bon. Là, on était dans l'urgence, effectivement. Donc, on l'a marié un an avant l'âge. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? On est au Yémen, on se marie à 12 ans. Tu sais pourquoi? Pourquoi on se marie à 12 ans?
On l'apprend.
Hein? Alors, il y a parce que les Arabes vont l'apprendre, mais même sans ça. Parce que c'est l'âge où on se marie dans la Torah. Quoi? Vous savez qu'il y a dans la Torah, dans la Halakha, oui, ça vous paraît bizarre, mais dans la Halakha, il y a un concept qui s'appelle Tseira, Yalda. C'est combien Yeled, d'après la Torah? C'est de quel âge à quel âge? Yeled, c'est de l'âge où tu es sevré, c'est-à-dire, on va dire 2 ans, jusqu'à ta bar mitzvah, ou bat mitzvah pour les filles. Zé Yeled. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Nahar. Nahar, ça dure 6 mois. C'est de 12 ans à 12 ans et demi. C'est pour t'habituer à être Baal Mitzvah. Et ensuite, tu t'appelles Boger. Et Boger, c'est celui qui est marié. Donc oui, à l'époque, on se mariait beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et il semblerait que dans la civilisation yéménite, ils n'avaient pas encore appris qu'on ne devait pas se marier avant 25 ans. Et tu veux que je te dise? Personne s'en est jamais plaint là-bas. Ça, c'est une autre civilisation, qu'est-ce que je te dis. Mais le fait est que Yosef et Bracha se marient alors que l'un va avoir 15 ans et elle en a 11. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer maintenant à prendre la direction de la communauté. C'est donc à 16 ans, il a encore étudié un an, mais à 16 ans, il devient le remplaçant de son grand-père, le rabbin de la communauté. Et il a 16 ans. Sauf que personne ne trouve qu'il n'est pas assez prêt, parce que c'est déjà un des plus grands Talmidei Chachamim de sa génération. Seulement, à un moment donné, il grandit, et nous sommes en 1943. Et en 1943, c'est l'âge, il faut partir. Et il va commencer la massa pour Eretz Israël. Nahon, vous avez raison, il y a une autre appellation qui est Nahar. Nahar n'est pas, là ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué comme étant Nahar, c'est 12 ans, 12 ans et demi, c'est uniquement dans le contexte de l'évolution biologique de l'être humain. C'est vrai que dans la Torah, très souvent, on va appeler quelqu'un Nahar, alors qu'il peut des fois avoir 80 ans, parce que ça ne fait pas référence à son évolution biologique, mais est-ce qu'il est Er Laolam, c'est-à-dire est-ce qu'il est éveillé à son monde ou pas. Donc c'est une autre appellation. Bekitsour, en 1943, il part pour Eretz Israël. Bon, évidemment que départ en Eretz Israël quand tu viens du Yémen, c'est pas départ en Eretz Israël quand tu viens d'Europe. Quand tu viens d'Europe, tu montes dans un bateau et tranquillou, mais tu arrives en Israël. Là, mon ami, il va d'abord falloir qu'il tape 3 semaines de d'âne et de marche à pied pour aller de Tsena jusqu'à Aden, la ville côtière du Yémen. De là, il va devoir prendre un bateau qui va l'amener en Égypte. Et de là, il devra prendre un train qui l'amènera à Tel Aviv. C'est un tralwed. En l'occurrence, lorsque Yosef et Bracha partent, ils ne partent pas seuls. Ils sont également avec la mère de Bracha, mais également avec leur premier enfant. Mais ni la mère ni l'enfant ne survivront à la marche à Dodan et ils seront enterrés à Aden avant que Yosef et Bracha ne prennent la mer en direction d'Eretz Israël. Finalement, ils arrivent en Israël et ils vont vivre pendant 3 ans à Tel Aviv. De quoi vit-il ? Eh ben, c'est pas compliqué. Il a un travail. Il avait un travail au Yémen quand il était yéménite au Yémen et rabbin de la communauté. Il n'était certainement pas payé pour être rabbin. Il était comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. Ils sont des, comment on dit en français, tzoref. Comment on dit en français ? Des bijoutiers, mais particuliers. Ils travaillent l'argent. Ils travaillent, c'est à Tzorfim. C'est-à-dire, ils travaillent l'argent, mais ils ont une technique de Tzorfout qui est particulière aux Juifs du Yémen. On appelle ça le filigrane. C'est-à-dire qu'on travaille des filaments d'argent qui sont collés, si vous voulez, sur le gros bloc d'argent. Et ça va créer des motifs incroyables.
C'est là d'où vient l'expression en filigrane, en fait.
Voilà, c'est de là que ça vient, le filigrane.
Je ne savais même pas.
OK ? Et en filigrane. Voilà, en filigrane, c'est genre imprimé à l'intérieur de... Ben, ça vient de ça. C'est une technique de torfout. Orfèvre. Merci beaucoup. Orfèvre. Tout à fait. Enfin, là, ça aurait plutôt été argent-fèvre, mais pseudère. Nakhon. Donc, il a un travail. Et le Rav Kapar a une phrase. À chaque fois qu'il termine un cos, un bijou, des pamoutim, il dit toujours la même phrase. Alors là encore, il le dit avec l'accent yéménite. Je ne vais pas le faire pour ne pas vous porter atteinte. Peut-être que je vais le retrouver. C'est quoi ? Peut-être que je peux te le retrouver vite fait. Bon, je sais pas. Je vais chercher parce que il y a un moment donné où il le dit. C'est sympa. Ambiance yéménite à fond. Il dit Gadol anene miyegia kapav yoter miyire shamayim. C'est yoter gadol lehenot meavodat hayadayim shelcha. Mais liot yereshamaim. Akadosh Baruch Hu veut qu'on travaille parce qu'il veut qu'on développe le monde. Et donc celui qui est né mais avodato, mash, kolakavodlo. Une fois que je vous dis tout cela, lorsqu'il arrive finalement à Jérusalem, il a un problème. Il a 30 ans, il arrive à Jérusalem. Et là, il se dit, on est en 1937, il se dit qu'il a l'impression que son Talmud, que son étude, que toutes ses connaissances sont en train de s'effriter dans sa tête. Ça fait trop longtemps qu'il ne s'est pas posé et étudié un petit peu. Et donc, il sent qu'il a besoin de se rafraîchir les idées. Donc, il va aller étudier la Torah. Où est-ce qu'on va étudier la Torah à Jérusalem en 1937 ?
Chez le Rav Getz.
Non ! Mais non, le Rav Getz, il est beaucoup trop jeune à ce moment-là.
Il est trop jeune.
Il n'est même pas encore en Israël.
Je suis influencé par mon passage dans
la Ben oui, mais c'est ça. Non, non, non. On va chez qui? Hop. On va. Eh ben, je sais pas, de Merkaz Arav. Ben oui. Alors, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook est déjà décédé. Le Rav Tzvi Yehuda est là. Et celui qui fait passer les entretiens d'embauche pour la Yeshiva, c'est le Rav Anazir. Et donc, le petit Yosef Kapar, il a 30 ans, hein, il arrive devant le Rav Anazir et lui dit qu'il veut venir étudier à la Yeshiva. On n'a pas le contenu de la discussion entre les deux. Par contre, on sait ce que le Rav Anazir va écrire après la discussion. Il écrit une lettre à celui qui s'occupe de, pas de faire passer les entretiens, mais d'enregistrer les gens à la Yeshiva. C'est un peu le Menahel de la Yeshiva, c'est le Rav Harlap. Ne vous inquiétez pas, on aura une vidéo sur le Rav Harlap un jour. Et donc, il écrit au Rav Harlap, il dit, mais ever le kol safek, chayavim le kabel autant la Yeshiva, ou od yé gadol mikulanu, Be'orat à Torah à Amitit, le Am Israël. Nous devons l'accepter à la Yeshiva, celui-là, car il sera très certainement un de ceux qui sera le plus grand et qui enseignera une Torah authentique au peuple juif. Donc évidemment, ça y est, il a accepté à la Yeshiva, il est à Merkaz Arav, et il commence à étudier. Mais là, il a un vrai problème. Il a un vrai problème. C'est que lorsqu'il est accepté à la Yeshiva, comme tous les élèves de la Yeshiva, il reçoit une milgat kiyum. Il reçoit un peu d'argent pour vivre pendant qu'il est à la Yeshiva.
Une bourse.
Une bourse, merci. Ouais, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Une bourse. Et ça le dérange énormément. Pourquoi ça le dérange énormément? Eh bien, parce que c'est un témani. Donc, qui dit témani, eh bien, dit qu'il est posek, halakha, lefi, à Rambam. Et le Rambam, eh bien, il dit dans Ilchot Talmud Torah, chapitre 3, qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Il n'a pas le droit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Alors, comment on fait? D'un autre côté, il ne peut pas être à la Yeshiva et vivre à la Yeshiva. S'il n'a pas un petit peu d'argent, au minimum. Donc, comment est-ce qu'il va faire? Ben, c'est pas compliqué, il a trouvé une solution. Quelle est sa solution? Il écrit. C'est pas seulement il l'a fait, mais il nous a donné un témoignage de ce qu'il a fait. Il écrit dans son journal que depuis le premier jour où il a reçu la bourse, il a noté dans son journal « Kol pruta ve pruta shikibel ». Il a noté la moindre lire qu'il a reçue. Et il a dit, Baruch Hashem, lorsque j'ai pu retravailler et que j'ai pu récupérer ma parnassa, j'ai réussi à rendre jusqu'à la dernière pruta au Rav Nathan Rahanan. Baruch Hashem, je peux dire que je n'ai pas profité de Kvod HaTorah pour les parnassas. C'est-à-dire, je vous parle d'un juif authentique, les amis. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement de cela qu'on parle. Maintenant, je suis en train d'essayer de vous retrouver là, justement, le moment où il dit Gadol, néné, mais il faut que je le retrouve, deux secondes. Attends, ça vient. J'y suis. Bon, je vais le retrouver à un moment donné.
Mais dans la Chitette Limoud, je peux pas être en attendant. La Chitette Limoud, il devait avoir un fossé, non?
Alors, dans la Chitette Limoud, il n'y a pas du tout de fossé, parce qu'il y a une autre Chita. Et là, c'est bien que tu me mettes dedans, parce qu'on va pouvoir rentrer maintenant dans Chitat Limoud des Yehudet Teman. Comme j'ai commencé à le dire au tout début, Yehudet Teman, c'est à Talmud. Ma shekatouf ba Talmud mechayev, ma shelo katouf ba Talmud lo mechayev. Maintenant, on ne s'arrête pas au Talmud. Mais tous les gens qui viendront après le Talmud, s'ils s'appuient sur le Talmud, on accepte ce qu'ils ont à dire. S'ils ne s'appuient pas sur le Talmud, on ne regarde même pas. Ça ne nous intéresse pas. Et comme j'ai continué à le dire, finalement, à partir du XIIe siècle, Yehudé Théman vont devenir tout simplement les élèves du Rambam. Ils vont accepter le Rambam comme étant le possek pratiquement unique de Yehudé Théman. Alors, s'il y a un Yéménite qui nous entend, il vous dit « Non, c'est pas vrai, ça c'était que vrai chez les Baladim, c'est pas vrai dans d'autres chitotes de Yehudé Théman. » Bégadol, le Rambam, c'est le Rambam. Chez les Yémanites, Poskim, Alpi, Arambam. Donc, si tu veux, dans leur Shitat Limoud, Zebeseder Gamour, ils sont très, très, très clairs, ils ont une connaissance accrue de tout ce qui est Torah chez Birtav, de tout ce qui est les commentateurs de la Torah, et du Talmud al Bourio. C'est-à-dire, donc après, c'est pas très compliqué, après pour eux, de l'Ifsok Alaha. Donc, ils sont pas du tout en retard du tout, de rien du tout à ce niveau-là. Ok? Et finalement, finalement, lorsque il a retrouvé toute son étude, il a trouvé tout son Talmud, la pression lui est mise par certains rabbins en Eretz Israël de commencer à prendre une fonction rabbinique à Jérusalem. D'abord, il va se faire les dents en tant que Dayan à Tel Aviv, dans le Beit Din de Tel Aviv, dans le Beit Din Agadol à Tel Aviv, et c'est seulement après qu'il arrivera à Jérusalem. Il faut savoir que le Rav Kapar est le plus jeune Dayan qui ait jamais été nommé en Eretz Israël. Il est nommé Dayan, il a 32 ans. C'est-à-dire 32 ans, les amis. Et il est déjà Dayan Beit Din Agadol. Finalement, quand il va arriver à Jérusalem, il sera d'abord pas dans le Beit Din Agadol Irurim. Il arrivera au Beit Din Agadol Irurim beaucoup plus tard, quand il aura 52 ans, et il va y rester jusqu'à sa mort. Rabotai, des milliers de psychotes du Rav Kapar. Des milliers de décisions halakhiques du Rav Kapar. Qui ont une grande différence avec les décisions halakhiques de son co-rabbin, le Rav Eliyoshiv. Rav Eliyoshiv, c'est un rabbin, Mazé Ashkenaz, Poili Sherouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le pile-poule dans le sang. Résultat des courses, les tchouvot du Rav Eliyoshiv, elles font 3 km à chaque fois. Les tchouvot du Rav Kapar, c'est 3 lignes maximum. Ou rambamiste avant d'être rambamiste. Comme le Rambam, il est super concis dans ses tchouvot ilkhatiyot, le Rav Kapar, tac, 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 on ne prend pas la tête. Il y a une question, il y a une réponse, tchic-tchac. Ce qui va permettre de rendre ces tchouvot beaucoup plus accessibles que les tchouvot des Ashkenazim. Et résultat des courses, ces tchouvot vont être acceptés dans le Olam Asfaradi, alors qu'on ne sait même pas que c'est un Témani. Il va montrer sa grandeur dès qu'il arrive, je vous ai dit, quand il arrive à Tel Aviv, dès qu'il arrive en Israël. Pardon ? Pardon ?
Bientôt, tu vas nous dire des Marocains.
T'aimerais bien. Hein, quand il arrive à Tel Aviv, au début, il n'y a pas beaucoup d'argent du tout. Et la deuxième année où il est en Israël, donc on est en 44, la deuxième année où il arrive en Israël, ils n'ont pas de quoi acheter une souka. Ils n'ont pas de quoi faire une souka. À ce moment-là, il passe un accord avec l'épicier du coin. Il lui dit, je t'écris une mezouza pour ton épicerie et tu me donnes les cartons de légumes. Il lui dit, ok. Et donc, il va faire une souka avec les cartons de légumes. Les tfanotes de sa souka seront des cartons de légumes. Et les gens passent et ne comprennent pas. On sait ce que c'est des soukotes, mais on ne fait pas de souka avec un carton de légumes. Il dit, la malo, c'est ce qui a marqué dans le Talmud. Et les gens, ils lui disent, mais on sait que c'est marqué dans le Talmud, mais depuis quand on a vu un juif qui vit son judaïsme comme le Talmud? Ben voilà, on a le Rav Kapar. Et donc le Rav Kapar, à ce moment-là, quand il est à Jérusalem, eh bien il va commencer à faire son œuvre monumentale. L'œuvre de sa vie. L'œuvre de sa vie. Et alors, je ne vous l'ai pas dit, hein, parce que Je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais maintenant qu'on va commencer à parler de l'œuvre de sa vie, je préfère vous le dire tout de suite, mes amis. Le Rav Yosef Kapar, il a reçu plus de prix dans sa vie, plus de prasim qu'il y a de prasim. Il n'y a pas assez de prasim pour les donner au Rav Kapar. Tous les prasim que Israël pouvait inventer, pratiquement, ben il les a reçus. Alors c'est quoi? Je parle de quoi? Pras Israël, évidemment. Il reçoit le Pras Israël, il reçoit le Pras Arav Kook, le Pras Bialik, le Pras, c'est quoi encore qu'il a reçu? Le Pras Bialik, il le reçoit deux fois. Le Pras, je me rappelle plus encore quel Pras il a reçu. Il en a reçu plein, il en a reçu tellement. Voilà, je ne me rappelle plus. L'homme échané, il reçoit des Prasim dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à faire un travail absolument incroyable. Quel est ce travail absolument incroyable que le Rav Kapar va faire? Eh bien, ça va être de rendre accessible la Torah qui ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il va faire? L'un des trucs qui l'énerve énormément, le Rav Yosef Kapar, c'est le fait que, jusqu'à présent, la traduction des écrits de tous les rabbanim qui ont écrit en arabe ont été faits soit par des Ashkenazim, soit par des mecs qui n'avaient pas du tout d'Irat Shamayim. Et donc, il dit, toutes les traductions qu'on a sont mauvaises ou contraires au sens de ce que le rabbin il a voulu expliquer. Et donc, et bien à partir de ce moment-là, il va prendre sur lui de commencer à traduire. À traduire et à expliquer cette Torah absolument incroyable. Quand je vous dis qu'il va commencer un boulot qui est le boulot de sa vie, le Rav Kapar, au final, il va te balancer 70 livres. Et quand je te dis qu'il va tout traduire, je veux que tu comprennes de quoi on parle. C'est lui qui va traduire tous les ouvrages de Rabbeinu Saadia Gaon, qui jusqu'à présent étaient en arabe. C'est lui qui va traduire, bon, il n'est pas le seul là pour le coup, mais qui va traduire aussi le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Mais, évidemment, alors il traduit plein d'autres choses. Il traduit Chovot Alvavot de Rabbi Nobachia Ibn Pakuda. Tous ces livres-là, ils étaient en arabe. Et les gens qui ne parlaient pas l'arabe, qui n'avaient pas une connaissance fondamentale de l'arabe et de l'ambiance, ils n'arrivaient pas à traduire. Mais sa masterpiece, c'est quand il va commencer à s'attaquer au Rambam. Et là, ça va être vraiment l'œuvre de sa vie. Non seulement il va traduire tout ce qui est traduisible du Rambam, que ce soit Igrot à Rambam, Perusha Mishnah la Rambam, le Perusha Mishnah du Rambam a été écrit en arabe. Il le traduit et l'explique. Moré à Nevuchim. Mais sa masterpiece, ça sera la traduction et l'explication du Mishneh Torah. Vous allez me dire, mais le Mishneh Torah, il a été écrit en hébreu, Nachon. Mais il n'est pas parvenu chez nous en hébreu. Il est parvenu en arabe. Et il a été retraduit après en hébreu. Le problème, c'est qu'il était mal traduit. Et Rav Yosef Kapar, il va prendre sur lui de rendre le Rambam au Am Israël. 24 tomes. 24 tomes pour traduire tout le Yad HaChazaka et le réexpliquer. C'est lui qui a rendu le Rambam au Am Israël. Ça va être l'œuvre de sa vie. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, en début de cours, que le Rav Kapar, il n'a pas eu l'interaction qu'ont pu avoir d'autres rabbanim avec les goyim. Mais il a eu une interaction fondamentale à l'intérieur du peuple juif. Il nous a rendu la possibilité de nous rattacher au rabbanim qui parlait en arabe, au rabbanim des Rishonim. Il a traduit le Rif. Il a traduit le Rif. C'est-à-dire que le Rav Kapar va rendre au Am Israël la possibilité d'étudier la Torah. Parce que, soyons clairs, sans le Rambam, notre Torah, ce n'est pas la Torah. Mi Moshe ad Moshe lo kam ke Moshe. Nous dira le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia, il dit, dans la première Iloula du Rav Kapar, il dit, כתוב על קברו של הרמב״ם שממשה עד משה לא קם כמשה והיום צריך לומר שממשה עד יוסף לא קם כיוסף. יא משה רבנו, יא משה בן מימון ויא יוסף קפח.
Et quelque chose que je ne comprends pas,
parce oui.
que j'imagine que dans le monde séfarade,
bah non. les grands hommes, ils parlaient bah pas, non. Bah non. Bah non.
Dans le monde ashkénaze, ils ont attendu le Rav Kappa pour étudier
non. Rambam. Non, je t'ai... non, je t'ai dit qu'il y avait des traductions. Elles étaient mauvaises.
Ouais. Ah, mauvaises.
C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient complètement... C'était des non-sens, des contresens. C'était absolument absurde. Maintenant, t'inquiète pas. T'inquiète pas, moi je te fais l'éloge du Rav Kapar, mais t'en fais pas, comme il était sioniste, comme il était sioniste, qu'il était l'élève du Rav Kook, qu'il était à Merkaz Arav, t'inquiète pas que quand ils ont fait la Mahadoura de Frankel du Yad HaChazaka, où ils ont mis toutes les nouvelles traductions, machin, ils ont pas mis celle du Rav Kapar. C'est alors, moi c'est le chané. Nous on sait quelle est la vérité. En mala asot. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que c'était quelqu'un qui était, et c'est peut-être ça aussi une des grandes marques de sa grandeur, c'est que il a jamais été à l'université. Il a jamais été à l'université, le Rav Kapar. Il a aucun diplôme universitaire. Il n'a pas le bac, il n'a pas ce que tu veux. Et pourtant, le Rav Kapar, il a été nommé docteur à l'université de Bar-Ilan. Reconnu docteur à l'université de Haïfa. Docteur à l'université Ivrit. Il n'a pas mis un pied à l'université. Mais tout le monde, tous les universitaires étaient convaincus que quand le Rav Kapar il écrit un truc, toute la méthodologie universitaire, elle est chez lui. Parce que c'est quelqu'un, comme on a dit au tout début, qui regarde le monde, qui prend les choses, qui compare, qui étudie, qui traduit, qui truc, machin. Maintenant, attends, je te parle du Rav Kapar qui traduit en arabe. Mais viens, on se la... juste pour le kiff. Parce que juste, ça me fait plaisir. C'est pour toi, c'est cadeau. Quand il est Dayan Bebeddin Agadol Birushalayim, il y a quelqu'un qui vient pour un dioun, deux juifs qui se disputent, machin, dioun. Seulement, un juif, c'est un Yerushalmi, et l'autre, c'est un Olé Hadash de Hongrie. Donc le Olé Hadash, il comprend rien. Non, mais je ne sais pas si tu viens de Hongrie, mais bon. Olé Hadash de Hongrie. Maintenant, le mec, il ne parle pas un mot d'hébreu, donc il a un traducteur. Maintenant, le traducteur, donc, il demande, alors, c'est quoi ta ta'ana? Le hongrois, il parle en hongrois. Et le traducteur, il traduit la ta'ana. OK, ça va. Il y a le dioun qui se met en place. Et puis, il se rend compte, le traducteur, que ça va pas dans son sens, que ça va pas dans le sens de son client. Donc, il lui dit. Et alors, le hongrois, il lui dit de changer un petit peu la traduction. Et il change un peu la traduction. Et le Rav Kapar, qui est Joseph Bebetadine, il dit, tu seras gentil de ne pas changer la traduction. C'est pas ce que ce mot il veut dire. Alors, le Rav Kapar, il n'est pas blond aux yeux bleus. Hein. C'est un yéménite. Hein. Ça, a priori, la Hongrie, il n'a jamais été, quoi. Et il dit, mais comment vous parlez en hongrois? Il dit, non, mais c'est parce que je viens d'une ville au Yémen qui était au nord, et c'était à la frontière avec la Hongrie. C'est-à-dire, tu comprends le bonhomme. Tu comprends le bonhomme. Il n'a pas appris le hongrois quand il était au Yémen. Hein. Mais il a appris pour étudier certains livres et pour comprendre certaines choses. Il a appris. Donc, on parle de quelqu'un qui a tout simplement rendu la grandeur au peuple juif. Grâce à la capacité qu'il a eue de nous redonner le Rambam, Rabbeinu Saadia Gaon, Rabbi Yehuda Halevi et tellement d'autres. Ravad, Arif, tous il les a traduits. Et les a rendus accessibles pour le Ham Israël. Le Rav Yosef Kapar, le juif authentique, le juif amiti. Mais avant lui, personne ne s'en était rendu compte des mauvaises traductions? Ben, d'abord, les Ashkenazim, non, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que voulait dire le texte d'origine. Il y en avait plein, par contre, le Rav Mazouz, il explique qu'il y a plein de gens qui avaient les traductions du Rambam, les anciennes. Et les rabbinim, quand ils disaient les choses, ils disaient, mais c'est pas possible que le rabbin me dise ça, ça contredit, c'est pas logique. Mais ils arrivaient pas, non, mais ils pouvaient pas savoir où était le problème. Et quand le Rav Kapar, il est arrivé, tout le monde lui a embrassé les pieds. C'est exactement ce que dit le Rav Eliaou, le Rav Mordechai Eliaou, il dit, si le Rambam, il était là aujourd'hui, il t'embrasserait sur ton front pour te dire, c'est exactement ça que je voulais dire. El Malasot. C'est de cela qu'on parle. Donc c'est quelqu'un qui a été d'une grandeur absolument incroyable. D'une grandeur et d'une simplicité incroyable. Il n'a jamais voulu avoir la mascorette du Dayan Arashi. Parce que l'homme est Kablim Kesef, Mikvot Torah. Et donc il continuait à faire sa tsorfout, à être un orfèvre. Sa femme, elle continuait à travailler, la rabbinite Bracha, elle était c'était vraiment une artiste. Elle était capable de créer, elle brodait de manière absolument incroyable, et elle a mis sur pied une entreprise de 50 brodeuses avec elle, avant de devenir la rabbinite Bracha, qui a réinventé le concept du Mif'al Chesed Be'am Israël. Rabbanit Bracha, c'est Torah Chesed. Si Rav Kapach était Torah Adin et Dayanut, elle était Torah Chesed. Et c'est pas pour rien qu'ils ont reçu les deux Pras Israël. C'est pas souvent qu'un couple reçoit les deux Pras Israël. Lui en 1969, elle en 1999. Les amis, on parle de gens qui étaient simplement authentiques et qui, par leur simplicité et leur grandeur, nous ont permis aujourd'hui d'étudier la Torah telle que ceux qui nous l'ont enseignée avaient l'intention qu'elle soit enseignée. C'est ça, la grandeur de Reb Yosef Kapach, Gdol Atemanim. Et c'est pas pour rien, et je terminerai par là, et c'est pas pour rien que finalement, lorsque les gens vont parler de lui, de Rav Shmuel Eliyahu, a dû répondre, assez récemment d'ailleurs, à une question qui lui a été posée. En disant, la personne qui pose la question sur Internet, c'est une question sur Internet qu'on peut trouver sur le site de Kippa, il y a quelqu'un qui pose la question à Rav Shmuel Eliyahu et dit, je suis moi-même, c'est une jeune femme qui pose la question, elle dit, je suis moi-même d'origine Témani, mais j'ai entendu un Rav à Bnei Brak qui a dit qu'on n'a pas le droit de posséder des livres du Rav Kapach, ni d'étudier les livres du Rav Kapach, parce que c'est minout. Encore une fois, hein, parce que les sionistes et tout ça, machin. Et le Rav Shmuel Eliyahu, il a répondu, il a dit, Ani zachiti, lirot et arav, Ani zachiti, lirot od yoter, ech abba, kibed kolkach et arav kapach, ve ech abba sheli, arav Mordechai Eliyahu, היה נוהג לקרוא לו מערי הרב קפח. Voilà la grandeur de ce bonhomme, de ce petit bonhomme qui vient d'un lointain pays, avec un accent bizarre, qui parlait avec des sonorités qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, qui n'avait pas du tout le standing et le comportement des autres rabbins de sa génération, et qui pourtant a été celui qui nous a redonner la lumière de celui qui, de Moshe ad Moshe, l'okam ke Moshe, grâce au Rav Yosef Kapach, nous retrouvons aujourd'hui une Torah authentique et originelle. Chazak ou Baruch, et la semaine prochaine, peut-être qu'on pourra parler d'un Marocain.
Ah, tu gardes toujours le meilleur pour la fin.
Pourquoi la fin? Pourquoi la fin? Allô?
C'est comme ça dans les concerts de musique, on se souvient que du début et que de la fin.
Mais qui t'a dit que ce serait la fin? Qui t'a dit que ce serait la fin? Il y a encore plein de gens qu'on n'a pas fait.
Je dis rien. En arabe.
Pardon?
Ils sont les écrits du Rambam. On a les écrits du Rambam?
Quoi, en arabe?
Les originaux.
Ouais, à la Sifria Léomit.
Il y a pratiquement tous les écrits du Rambam, quoi. Tout ce qu'il a traduit, on avait des originaux?
Il y avait des originaux, il y avait des choses que lui, il avait du Yémen. Des kits veillades. Il avait énormément de kits veillades. Voilà. Voilà, les amis. Chazak au Baruch.
Chazak, merci.
Alors, vous pouvez devenir Témanim. C'est bon.
Surtout pour plus tard.